Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La fin de la visite officielle de la première ministre française en Algérie sur la coopération entre Paris et Alger. Nous écouterons Belkir Belhadad, député Renaissance de la Moselle, vice-président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Plus de 42 000 enfants vivent en France dans des hébergements d'urgence, des abris de fortune ou dans la rue. C'est ce qu'indique un des comptes organisés en août par l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité. La mission de l'ONU en Irak demande un dialogue sans condition préalable entre les forces politiques du pays. Objectif, former un gouvernement et trouver une issue à la crise politique. Il reste très difficile de trouver de l'essence dans plusieurs régions de France. La grève est reconduite dans les raffineries et dépôts de Total Energy. La guerre menée par la Russie en Ukraine, plusieurs bombardements ont eu lieu dans des villes du pays, dont la capitale Kiev. Gros plan dans votre édition sur la cité Gagarine, une ancienne cité résidentielle de HLM située à Ivry-sur-Seine. Son histoire est racontée dans le documentaire « On a grandi ensemble ». Nous écouterons son réalisateur, Adnan Traga. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Il évoque notamment le plan de sobriété énergétique présenté par le gouvernement, vous l'entendrez. Un peu plus d'un mois après Emmanuel Macron, la première ministre française s'est rendue en Algérie ce dimanche et ce lundi. Elisabeth Borne a quitté le pays dans l'après-midi. Cette visite a été marquée par la signature d'accords techniques et l'affichage d'une nouvelle dynamique dans la relation bilatérale sur la coopération entre les deux pays, mais aussi sur la question mémorielle liée à la période coloniale. Entretien avec Belkir Belhadad, député Renaissance de la Moselle, vice-président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale.
Sur la question mémorielle, une question très douloureuse, difficile. L'engagement qui a été pris, ben, c'est tout simplement de faire en sorte de laisser nos historiens, donc il y a un comité d'historicité composé d'historiens français et algériens qui est en train de se mettre en place, hein, les choses sont en cours, pour que, suite à la décision du président Tebboune d'ouvrir les archives nationales algériennes, de faire ce travail à la fois sur la période de la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962, mais également de la période coloniale. C'était une volonté très forte du président Tebboune, que le président Macron a bien entendu accepté. Et ensuite, une fois que ce travail sera fait, il va falloir attendre, à mon avis, ce ne sera pas de si tôt, mais je pense qu'il va falloir les laisser travailler et d'ici, j'espère, quelques mois ou quelques années, les femmes et les hommes politiques de nos deux pays prendront également leurs responsabilités sur ce sujet extrêmement douloureux.
Et une question importante également, celle de l'énergie, cela préoccupe l'ensemble de la population. Est-ce qu'il existe des engagements pris de part et d'autre ?
Alors, il y a des engagements qui ont été pris, notamment sur le développement des énergies renouvelables. L'Algérie a un potentiel énorme sur un certain nombre d'énergies, notamment l'énergie solaire. L'Algérie a poursuivi une démarche extrêmement intéressante dans ce sens-là et je pense que nos deux pays doivent collaborer sur ces sujets-là. En tout cas, c'est inscrit dans cette déclaration d'Alger de fin août. Le travail qui est fait également sur les matériaux rares. C'est que la France n'est pas productrice de ces matériaux-là et ils sont très présents dans beaucoup de nos produits du quotidien. Et un partenariat sera mis en place aussi sur ce sujet. Du côté français, le ministre de la Transition écologique a déposé une loi notamment sur les énergies renouvelables. Et forcément, ces actions, ces propositions, ces mesures qui sont inscrites dans cette proposition de loi s'inscrivent dans une démarche beaucoup plus globale avec des pays européens, bien entendu, en termes de fourniture, de gaz, mais aussi d'électricité, mais également avec des pays limitrophes. Et je pense que l'Algérie, comme d'autres pays africains, ont un rôle essentiel à jouer dans cette stratégie de souveraineté nationale.
Une question qui n'est pas très consensuelle, il s'agit de celle des visas, où là, Paris et Alger n'ont pas la même position.
Oui. Les choses se sont améliorées de ce côté-là. Vous savez comme moi la difficulté du côté algérien de délivrer des laissez-passer consulaires. La situation aujourd'hui est pratiquement rentrée dans l'ordre. Hein. Moi, sur la part du département de la Moselle, dont je suis député, une collaboration importante s'est mise en place entre le secrétaire général de la préfecture et la consul d'Algérie. Et la plupart des demandes de laissez-passer ont été délivrées par les services et les autorités algériennes. Donc les choses, pour moi, sont en train de rentrer petit à petit dans l'ordre. Donc il y a effectivement beaucoup moins de tensions. Le sujet a été évoqué à l'occasion de la visite du président de la République Emmanuel Macron en Algérie, fin août, en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
L'exécutif met l'accent également sur les jeunesses des deux pays. Comment cela se traduit ?
Le partenariat peut être mis en œuvre sur le plan des échanges type Erasmus, comme on l'en connaît en Europe, avec la présence de 8 000 étudiants supplémentaires. En temps normal, je ne parle pas hors période Covid, à peu près entre 25 000 et 30 000 étudiants qui viennent régulièrement en France. Et là, la décision a été prise d'augmenter ce nombre à 8 000 supplémentaires. Je crois que c'est un signal fort qui est donné en matière de coopération universitaire et dans un certain nombre de domaines de recherche. Je crois que c'est une bonne chose, une belle avancée pour nos deux pays. Donc c'est une concrétisation très opérationnelle entre nos deux pays.
Belkir Belhadad, député Renaissance de la Moselle, vice-président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Plus de 42 000 enfants vivent en France dans des hébergements d'urgence, des abris de fortune ou dans la rue. C'est ce qu'indique un décompte organisé en août par l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité. La présidente de l'UNICEF France, Adeline Hazan, alerte notamment sur les conséquences sur la santé mentale de ces enfants. La mission d'appui des Nations Unies en Libye condamne, selon ses mots, le meurtre odieux d'au moins 15 migrants et demandeurs d'asile dans la ville libyenne de Sabratha, une ville située sur la côte ouest du pays. Cette ville est un important point de départ pour des milliers de personnes qui cherchent chaque année à rejoindre les côtes italiennes. Les médias locaux indiquent que ces candidats à l'exil, pour la plupart issus d'Afrique subsaharienne, ont été tués jeudi par des tirs à la suite de heurts entre passeurs. La mission de l'ONU en Irak demande un dialogue sans condition préalable entre les forces politiques du pays. Objectif, former un gouvernement et trouver une issue à la crise politique. Cela, un an après les dernières législatives, l'Irak avait organisé le 10 septembre 2021 des législatives anticipées sous la pression d'une contestation populaire inédite. La guerre menée par la Russie en Ukraine. Plusieurs bombardements ont eu lieu dans des villes du pays, dont la capitale Kiev. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé 75 missiles à travers le pays. Il reste difficile, même très difficile, de trouver de l'essence dans plusieurs régions de France, dont l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Le bras de fer se poursuit entre raffineries et syndicats. La CGT du groupe Total Énergie a annoncé poursuivre sa grève. Le mouvement social, qui dure depuis une dizaine de jours, a pour objet une demande de revalorisation salariale. La direction de Total Énergie a proposé d'avancer à ce mois-ci les négociations prévues en novembre, posant comme condition la fin des blocages. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Il évoque notamment le plan de sobriété énergétique présenté par le gouvernement français. Extrait.
Alors nous pensons que si on réduit notre consommation d'énergie de 10%, on pourra passer tranquillement les pics de besoins énergétiques pour cet hiver-là. Et du coup, ce message-là, avec son impact également en termes de communication, qui fait que c'est un message plutôt simple et clair, nous permettra, d'après nos projections, de passer l'hiver assez sereinement.
Avec donc des messages aussi à la télévision où on saura en temps réel s'il y a assez d'électricité et s'il faut de temps en temps réduire sa consommation de manière exceptionnelle.
Oui, et dans tous les cas, il faut que je pense que de façon durable, qu'on s'habitue à vivre de cette façon-là, à consommer moins d'énergie. Le monde dans lequel on se projette avec la consommation des énergies fossiles qui sont évidemment limitées sur notre planète nous force, nous imposera de toute façon à aller vers de la sobriété. Aujourd'hui, un contexte international fait que on va devoir passer par cela. Et d'un point de vue évidemment écologique, nous on se satisfait également que des dépenses d'énergie superflues peuvent être maîtrisées et mieux gérées. C'est beaucoup de la pédagogie qu'il faut là-dessus, parce qu'en réalité, très peu de monde connaissent suffisamment ces informations-là. Par exemple, le fait d'avoir une box internet qui tourne toute la nuit, l'intérêt est assez limité en termes d'utilisation, mais l'impact énergétique est assez important. Et je pense que, à force de marteler ces messages-là et en donnant en toute transparence les niveaux de consommation d'énergie, d'électricité, etc., on permettra d'avoir un engouement majoritaire au sein de la population.
Le gouvernement sera attentif à tous les secteurs de la société, les ménages, mais aussi les PME et l'industrie.
Le gouvernement était intervenu, notamment y compris lors de la dernière crise sanitaire, où l'impact vis-à-vis de nos commerces était très important. Ça a été l'intervention la plus importante en Europe et l'une des interventions les plus importantes à l'échelle de la planète d'un État pour accompagner ces entreprises. On connaît l'absolue nécessité d'accompagner nos entreprises parce que c'est elles qui créent de l'emploi, qui créent du coup du pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Et donc le gouvernement sera au rendez-vous comme il l'a été jusqu'à maintenant. On peut le comparer par exemple avec des pays comme la Belgique où les factures d'électricité sont x4, x5 pour les commerçants. Aujourd'hui, on essaie de le limiter au maximum auprès des commerçants français. Donc tout ça dans un contexte global d'inflation qui est moins importante dans notre pays, le gouvernement va répondre présent avec des messages et des actes forts, directs, concrets, dans l'intérêt de nos commerçants.
Il faudra aider davantage les collectivités locales. Vous avez sûrement entendu le maire de Neuilly-sur-Marne s'inquiéter de la hausse des coûts de l'énergie dans sa ville.
Oui, il faut également que nos collectivités locales fassent cet effort de sobriété. En réalité, pour être tout à fait honnête, ça fait un petit bout de temps que les collectivités locales font beaucoup d'efforts, et on peut le constater. Donc, de nombreuses villes avaient déjà fait des efforts pour limiter leur impact de consommation d'énergie avec la fermeture des éclairages publics. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut aller également vers de la meilleure isolation pour les établissements public, notamment de nos collectivités territoriales. Et actuellement, à l'Assemblée nationale, il y a également des négociations, notamment pour ce qui concerne le budget qui va vers nos collectivités territoriales, qui sera à minima au même niveau qui était celui de l'année dernière, sachant que celui-ci était une progression très importante de 13%. Mais nos collectivités territoriales ont toujours joué le jeu et je ne doute pas que ça va continuer. Aujourd'hui, l'effort, il doit être vraiment dans toutes les strates de la société, les entreprises, collectivités locales, individualités. Et c'est ensemble qu'on aura surmonté ce défi.
Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h. Rediffusion ce mardi matin à 7h. Émission présentée par Loïc Barrière. Ce sera ce mardi soir à 20h30. La projection au cinéma Les Trois Luxembourg à Paris du documentaire On a grandi ensemble. Le réalisateur Adnan Traga sera présent pour raconter la genèse de son film qui raconte l'histoire de la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine. Une cité détruite en 2020 à Nantraga.
Moi, j'habitais en face et j'ai grandi dans ce quartier. J'habitais en face et quand j'ai appris que la cité allait être détruite, ça m'a pas laissé indifférent. Et j'ai vu qu'il y a plein de projets culturels qui se faisaient, des projets photos, une pièce de théâtre. Il y avait eu un court-métrage aussi. Et qui souvent était de qualité, mais je retrouvais pas moi le quartier que j'avais connu, dans lequel j'avais grandi, et les habitants que moi j'ai connus, et j'ai voulu mettre ça en avant.
Alors justement, qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette cité Gagarine à Ivry-sur-Seine, cité qui n'existe plus depuis 2020 ?
Elle symbolisait beaucoup de choses dans le quartier. C'était un endroit qui était dur parce que il y avait beaucoup de familles, beaucoup de jeunes en difficulté sociale dans le quartier. Donc quand on met ensemble des personnes en difficulté, ça peut créer des situations compliquées. Mais c'est un quartier dans lequel il y avait aussi beaucoup d'entraide, de solidarité. Très jeunes, les habitants ont commencé à créer des associations pour aider les plus jeunes encore à faire des devoirs, ou des personnes qui étaient un peu analphabètes à écrire des courriers administratifs et tout. Il y a eu ce truc d'entraide depuis tout le temps dans ce quartier, chose que j'ai rarement connue ailleurs à un tel niveau. Et les jeunes du quartier se sont aussi à un moment politisés. Ils ont créé une liste aux élections, je crois que c'était cantonales au départ. Et aujourd'hui encore, il y a de cette liste-là Il y a deux jeunes qui sont adjoints maires. Donc pour moi, c'est un quartier qui était difficile par certains aspects, mais qui était aussi porté par des jeunes qui avaient une vraie envie de casser le plafond de verre. C'était pas forcément pour tous des adolescents à problème. C'était plutôt pour la majorité, ils allaient à l'école de façon classique et ils n'étaient pas dans la délinquance. C'est une minorité qui était dans ce cas-là. Mais quand on était à l'école, dès le collège, il y avait le problème des préjugés de certains profs, des conseillers d'orientation qui ne nous voyaient pas forcément dans les filières classiques. Moi, par exemple, j'ai un bac S, j'ai un DEA d'économie à la Sorbonne, donc un bac plus 5 en sciences économiques à la Sorbonne. Et dès la troisième, on a commencé à me faire redoubler, à vouloir m'orienter, à m'envoyer dans des filières technologiques, si bien que j'ai redoublé ma troisième, ma seconde. Et mon père ne démordait pas du fait que fallait que j'aie un bac S, bac que j'ai eu. Et après, j'ai passé mes 5 années d'études supérieures sans problème. Donc c'est une façon, ce film, de montrer que ces jeunes qui sont soit parfois problèmes, soit souvent stigmatisés, faut prendre le temps parfois, les laisser se redresser. Et on voit, je pense pas qu'il y ait eu de projet comme ça dans lesquels on faisait le bilan de ce que devenaient les jeunes des quartiers populaires de notre génération. Et on voit que pour la plupart, ils ont des vies normales, entre guillemets. Ils ont fondé une famille. La plupart d'entre nous, on a fait des études supérieures. Il y en a plusieurs qui sont cadres. Voilà quoi. Donc c'est un film qui se veut optimiste à ce niveau et qui pour moi serait important de montrer aussi à des jeunes des quartiers pour leur montrer que faut insister dans les études et faut avec ce film donner des modèles de réussite.
Le réalisateur Annan Traga, ce mardi à 20h30, il présentera au cinéma Les Trois Luxembourg à Paris son documentaire On a grandi ensemble, un film actuellement à l'affiche dans toute la France. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.